artist would not fear the censor, where the great will not be constrained by the small, where the scientist would not be bound by petty morality. I chose to build Rapture. But my city was betrayed by the weak.
Mesdames et messieurs, bienvenue à Rapture. Nous sommes dans les années 60, nous sommes sous l'océan, fermement arrimé au fond marin. Avec nous ce soir, dans ce piège de verre et de métal, Loula Sinafoubert, salut.
Je croyais que t'allais annoncer la petite sirène du coup quand on était sous l'océan. Salut à tous, salut Yann.
Non, nous sommes évidemment dans La Cartouche, le podcast Blueprint qui parle d'un ou plusieurs jeux vidéo. Et aujourd'hui, mon cher Lou, heureux d'être avec toi, c'est BioShock que nous allons explorer les profondeurs de BioShock. Alors vraiment, le premier du nom, les deux autres, BioShock 2 et BioShock Infinite, on en parlera plus à titre de comparaison. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une rétrospective pour se remettre, se replonger dans le premier BioShock et voir comment est-ce qu'il a vieilli 13 ans après, car c'est tout de même un jeu de 2007. Commençons d'ailleurs par ce point-là, Lou. Qu'est-ce que c'est que BioShock ? De quoi s'agit-il ? Au-delà du fait que ce soit un jeu 2K Games réalisé par Ken Levine.
Alors, de façon très très prosaïque, on va dire que BioShock, c'est un FPS, hein, voilà, First Person Shooter. Donc, comme on disait, un Doom-like hein, quand j'étais petit. Donc, un jeu de tir en vue subjective qui te plonge, voilà, dans une, comme tu l'as dit, dans une ville sous-marine qui s'appelle Rapture, qui a été créée par Andrew Ryan, imaginée par Andrew Ryan, qui a été fondée, du coup, un petit peu comme une espèce de rêve américain poussé à son paroxysme. Hein. Donc voilà, l'objectif, c'est la science avec tous les pouvoirs. Et on oublie un petit peu les dogmes moraux, la religion, etc. pour être vraiment du point de vue du progrès, finalement. Presque du niveau du transhumanisme. Enfin, même pas presque. Hein, c'est une des thématiques du coup qui sont évoquées dans ce jeu. Et tu incarnes en fait un homme qui... tu commences la partie dans un avion qui s'échappe. Qui s'écrase, c'est le mot que je cherchais, dans l'eau près d'un phare. Et en fait, ta seule échappatoire, c'est ce phare. Donc tu rentres dans le phare et là il y a un ascenseur qui t'amène un bathyscaphe qui te plonge, plutôt une espèce de petit sous-marin qui te plonge voilà dans l'univers de Rapture, et tu découvres cette ville. Et c'est assez intéressant au niveau narratif, rien que le début déjà est assez exemplaire, rien que pour ça. Et c'est ce qui a d'ailleurs à changer un petit peu. Et souvent, c'est vrai que présenter BioShock en tant que simple FPS est un petit peu réducteur, parce que c'est un jeu d'aventure aussi, au final. On avait eu le même débat, d'ailleurs, sur Metroid Prime. C'était quelque chose d'assez similaire, qui était un FPS, du coup, mais présenté aussi plutôt comme un jeu d'aventure à la première personne à l'époque par Nintendo. Je pense que le parallèle peut être fait, mis à part qu'effectivement BioShock est un jeu beaucoup plus bourrin et avec une action beaucoup plus effrénée, ça c'est certain.
Metroid Prime qui précède BioShock de quelques années, il faut le préciser.
Tout à fait.
Un truc qui est intéressant, tu disais tout à l'heure, BioShock, c'est l'histoire du rêve américain, vraiment dans son scénario, dans les thèmes qu'il traite, l'histoire du rêve américain poussé à son paroxysme. Oui et non, parce qu'en fait, c'est plus l'aboutissement de la philosophie libertarienne, c'est-à-dire celle que personne ne doit interférer avec l'individu, avec le plein potentiel de l'individu, que lui-même peut s'en sortir en toute situation, et que s'il lui arrive quelque chose de négatif, au final, c'est parce qu'il l'a bien cherché et que chacun est maître, doit être maître de son destin.
C'est un peu ça le rêve américain, hein. C'est le self-made man.
Andrew Ryan, il est construit en opposition d'abord à Moscou et ensuite à Washington.
Alors,
il le dit dans sa vidéo d'introduction, quand, une fois que tu es rentré dans Aperture.
Dans Rapture.
Dans Rapture. Et il le dit encore une fois, même au début, quand tu es dans le bathyscaphe, justement, dans la première plongée où tu commences à découvrir. Rapture, d'ailleurs, c'est tiré du même discours que vous avez écouté là il y a un instant au début de l'émission, mais là vous l'avez entendu en anglais évidemment. C'est cette idée que il est envers et contre tout, tous les gouvernements ont déçu, toutes les sociétés sont déçues, et donc il a créé la sienne pour vivre son rêve libertarien, et tu l'as dit, transhumaniste en plein.
Exactement, mais il le fait justement en réaction par rapport à Washington, parce qu'il estime que Washington du coup est vérolé.
Trahi.
par la religion et par le socialisme. Donc c'est c'est en fait le rêve américain capitaliste, hein, c'est ce principe, voilà, de on part de rien et on bâtit une fortune, on devient un surhomme au sens physique propre, hein, c'est même la métaphore est poussée jusqu'au physique dans le jeu vidéo, puisque enfin on va en parler, mais tu peux
pousser très loin d'ailleurs jusqu'aux dernières minutes du jeu.
C'est le principe, hein, c'est que tu peux en fait t'augmenter grâce à des plasmides, donc qui te confèrent des pouvoirs, en fait, des super pouvoirs, limite comme un super héros. Hein.
Voyez-le comme de la magie. Hein,
exactement, tu lances de la glace, de l'électricité, du feu, de la télékinésie, ce genre de choses, donc vraiment des pouvoirs de surhomme. Et voilà.
Et
donc
ça se combine avec les armes plus traditionnelles d'un FPS, c'est-à-dire ton lance-grenade, ton flingue, ta clé à molette qui est ton arme de mêlée, ta mitraillette, etc., etc.
Tout à fait. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on peut toujours jouer à BioShock, bien sûr. Où est-ce qu'il est disponible ?
Alors, il est sorti à la base sur PC et sur Xbox 360. Il est ensuite sorti sur PlayStation 3 un an plus tard. Il est arrivé sur Mac un an après. Il est arrivé sur iOS, donc sur iPhone, mais il a été retiré de l'App Store depuis. Donc, il est sorti en 2014 sur iOS, mais il en a été enlevé. Et enfin, il est arrivé sur Nintendo Switch cette année, au joli mois de mai. Ainsi d'ailleurs que d'autres jeux 2K dont les Borderlands et XCOM 2 pour ne pas les citer. Donc il est disponible sur tous ces supports, il est également sur PlayStation 4 et Xbox One dans la version remastered qui a d'abord commencé à gracier le PC et qui est également celle de la version Nintendo Switch. Donc deux grandes vagues, on va dire, de sortie, une première sur les consoles d'ancienne génération et une deuxième sur les consoles actuelles. Alors Lou, je sais que BioShock c'est un jeu que tu aimes beaucoup, tu en gardes un excellent souvenir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle histoire tu as avec ce jeu-là ? Est-ce que tu l'as découvert justement à sa sortie en 2007 ou plus tard ? Est-ce que tu y as beaucoup rejoué ou est-ce que là pour cet épisode-là c'était la première fois que tu t'y remettais vraiment ?
Alors il y a une histoire un peu particulière qui est plus personnelle et professionnelle d'ailleurs, plus que et davantage que liée au jeu lui-même en fait. C'est-à-dire que le jeu est sorti au moment où je suis arrivé à Gamekult, donc en 2007, c'était au moment où Ragal le testait et c'était vraiment mes premiers jours et je voyais Ragal qui en discutait avec l'équipe et tout. Ragal, donc c'était faut que je précise évidemment parce que moi j'en parle comme si c'était
l'ancien rédacteur en chef de Gamekult,
il y a 13 ans vu qu'il est parti, il y a 13 ans d'ailleurs, donc effectivement je pense que beaucoup de gens ne savent plus malheureusement, donc Ragal, Clément Apap de son nom. Donc voilà, et il en discutait beaucoup avec la rédaction. Je crois qu'il y avait vaguement des questions, peut-être plus sur le mode van d'ailleurs, savoir est-ce que j'y mets 10 ou pas. Il y a jamais eu 10 hein, chez Gamekult, donc c'était quelque chose comme ça. Mais le jeu avait vraiment beaucoup plu à Ragal, et je me souviens, ça discutait, et c'était le dernier test de Ragal puisqu'il partait dans la foulée. Donc voilà, il y avait tout ça à peu près à cette époque. Donc c'est vrai que c'était un rapport un petit peu particulier. Et il faut savoir que j'aime pas trop les FPS. Tu vois, quand j'étais petit, j'ai fait Doom, j'ai fait Duke Nukem, mais c'est pas forcément un genre qui m'intéressait beaucoup. Déjà parce que c'est pas un genre dans lequel j'excelle par nature. Mais là, c'est vraiment par l'univers en fait qui m'ont complètement happé finalement. C'est, tu vois, les années 60, le côté narratif, le côté visuel aussi, hein,
le côté politique.
Voilà, l'idée de tu regardes par la fenêtre, tu vois l'océan et tout. Enfin, c'était y avait vraiment quelque chose qui me fascinait au niveau du scénario, au niveau de l'histoire. Et c'est ça qui m'a amené en fait finalement au jeu. Et c'est aussi avec lui du coup que j'ai découvert, j'étais pas forcément réticent au FPS, c'était juste le côté pam pam boum boum un peu simpliste de la guerre qui la guerre en soi ne m'intéresse pas, tu vois, jouer à la guerre ça m'intéresse pas. En revanche, vivre une aventure comme l'a été Metroid Prime, comme l'a été BioShock, ça m'intéressait davantage. Donc c'est aussi pour ça que le jeu compte, et aussi parce que en termes de méta, hein, au niveau de ce que le jeu dit du jeu vidéo, surtout à travers la petite phrase « je vous prie » qui a un sens particulier sans vous spoiler, mais c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais c'est en termes d'écriture de jeux vidéo, de montrer les limites du jeu vidéo, de limites en tant que joueur, ces murs invisibles, ces objectifs obligatoires, et qui trouvent en fait un écho narratif, qui ont une explication narrative. Je trouvais que c'était vraiment vraiment fort, je trouvais ça très intéressant.
Surtout avec nos yeux de 2020, BioShock, c'est quand même des couloirs assez évidents aujourd'hui. Hein. En termes purement de level design, on voit les limitations des consoles de l'époque, on voit les habitudes purement de level design de cette époque-là, d'avant 2010, où c'est vrai qu'on a assez peu de grands espaces, on est beaucoup plus sur des niveaux... Justement, qui rappelle pas mal, non pas Metroid Prime, mais mais Metroid sur sa progression de salle en salle, de sas en sas, où il va falloir fouiller un petit peu ce qu'il y a dedans, ce combat, battre des ennemis, mais pas de battre des ennemis pour réussir, plus battre des ennemis pour pouvoir survivre et progresser.
Bah, l'architecture de la ville en elle-même oblige un petit peu cette construction en sas, et je pense que je crois me souvenir dans les bonus qui sont livrés du coup avec le jeu sur sa version Deluxe hein, qui est sortie là sur... Sur Switch, tout ça. Il y a des, je crois qu'à un moment, ils expliquent qu'ils ont choisi, en fait, cette forme de ville sous-marine parce que, en développement, c'était plus simple pour eux, tout bêtement, hein, parce que ça correspond à une forme qui était plus essentielle, finalement. Ça évitait ces grands espaces, comme tu le disais. Mais je trouve que ça se passe plutôt bien et il y a quand même plein de zones à explorer, plein de secrets, plein de petits recoins. Et c'était ça aussi que je trouvais très, très fort, en fait, finalement. C'est que t'avais vraiment cette impression de Rapture est un personnage, ça existe, ça a une cohérence géographique.
Et il y a des secrets, c'est-à-dire que même s'il y a un chemin assez évident et si
plein.
Tu laisses la flèche activée, tu peux littéralement faire le jeu quasiment en mode automatique et juste suivre la flèche qui est au sommet de l'écran, mais tu as aussi la possibilité de sortir de ce chemin convenu et justement d'utiliser tes plasmides de manière environnementale, c'est-à-dire que tu as une porte à dégeler avec ton plasmide de feu par exemple, un truc à réparer, un circuit électrique à réparer, à faire refonctionner avec ton plasmide électrique. C'est tout bête, mais c'est tellement bien inclus organiquement, on va dire visuellement, dans le level design, dans la façon dont la ville est représentée, que ça marche bien et que, je vais réutiliser ce mot-là, que c'est organique, que c'est naturel.
Et puis je parle souvent de cette cohérence géographique, hein. Moi c'est quelque chose qui m'importe vraiment énormément dans les jeux vidéo, et pour moi Rapture est une ville fonctionnelle en fait. Tu pourrais imaginer concevoir Rapture telle qu'elle a été conçue dans le jeu vidéo pour en faire quelque chose de réel, et c'est ça qui fait aussi la force de ce jeu, c'est que tu oublies complètement, justement selon moi, même si tu dis que ça, qu'on retrouve du coup cet effet dans le level design, pour moi je trouve que tu oublies complètement ce côté level design justement, et que c'est une vraie exploration de ville là où t'as le côté plus artificiel dans les FPS classiques.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est dans la mécanique de métro bathyscaphe, puisque donc on peut passer d'un environnement à l'autre, en gros d'une partie de la ville à l'autre en métro bathyscaphe, et on va en débloquer de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. C'est que ce système de métro bathyscaphe te permet de revenir en arrière. Ce qui, par rapport à la formule d'un Doom, par exemple, ou autre chose, étant donné que ton prochain objectif est toujours dans la prochaine zone, ne ferait aucun sens. Et là, effectivement, ton prochain objectif est, sauf erreur, toujours dans la prochaine zone. Il n'y a pas besoin de faire deux fois la même zone, ou vraiment dans des cas très rares, il y a très peu de backtracking si on suit l'histoire en pure ligne droite. Et c'est intéressant de se dire, voilà, je vais aller chercher les secrets, je vais aller récupérer d'autres petites sœurs qui sont des personnages très importants dans BioShock, puisqu'elles permettent de récupérer une forme de monnaie qui permet elle-même d'acheter des pouvoirs ou d'étendre les pouvoirs qu'on a récupérés. Donc c'est en ce sens-là, c'est assez intelligent, parce que la façon dont le menu apparaît au moment où tu rentres dans le bathyscaphe métro te fait comprendre que tu n'es pas obligé d'aller dans la ligne droite que l'histoire te le raconte. Même s'il y a toujours un certain niveau d'urgence dans l'histoire et dans les dialogues. On porte dès le début du jeu une radio, et je pense que tu es d'accord avec moi, Lou, les personnages, à chaque fois, te disent vraiment « Allez, il faut aller là, c'est très important, c'est bientôt la fin du monde, il va bientôt se passer quelque chose de terrible, vite, 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 prochaine zone. » Alors qu'en fait, non. C'est ça que je trouve intéressant d'une certaine manière. Il y a peut-être une légère contradiction de ce côté-là entre justement l'histoire et le gameplay. Le gameplay est plus ouvert que l'histoire le laisse parfois entendre.
C'est vrai. Je peux comprendre, mais je pense que le jeu t'invite lui-même naturellement par des petits indices subtils. Enfin, tu vois sur la carte les zones, tout ça, des portes, machin, qui te poussent finalement. Tu dis tiens, cette porte, j'ai pas pu rentrer. Est-ce qu'il y a pas moyen d'obtenir la clé, etc. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Il y a vraiment un jeu d'observation qui est très très important Ce qui est pas seulement au niveau des ennemis, hein, c'est pas juste observer pour bien attaquer, c'est vraiment tous ces détails dans le décor qui comptent beaucoup, et savoir justement comment explorer le moindre recoin. Et moi, c'est ça vraiment qui me plaisait. Mais pour revenir peut-être plutôt d'abord sur le côté action pure, puisque c'est quand même la racine un petit peu de BioShock. Toi, quel est le bilan que tu tires au niveau de ce gameplay justement ? Est-ce que ça te paraît assez original, le côté les armes, les pouvoirs, etc. ?
J'ai du mal à cacher que sur ma façon de jouer au FPS, pour moi, ça marche pas. Pour être tout à fait honnête, j'ai jamais été très bon au BioShock. J'ai beaucoup aimé, plus aimé BioShock Infinite que le premier BioShock. BioShock 2, j'y ai joué que quelques heures, on y reviendra peut-être plus tard. Enfin, que quelques heures, qu'une heure, je pense, à ce stade. Mais BioShock 1, à mon avis, a plusieurs problèmes, à commencer par les premières heures de jeu. Jusqu'au moment où, en gros, on a l'inventaire complet d'armes, jusque-là, je trouve le jeu assez répétitif et trop difficile parce qu'il t'impose une certaine façon de jouer qui est beaucoup basée sur l'infiltration, sur le fait d'attendre et sur le fait de rationner à mort toutes tes ressources, que ce soit l'argent, que ce soit les kits de soins, que ce soit même aussi d'ailleurs la dent qui te permet l'Ève qui te permet d'utiliser les plasmides, donc les pouvoirs magiques. Tout ça, enfin, je trouve le jeu extrêmement rapia dans ces deux ou trois premières heures. Et pour moi, ça génère de la frustration parce que j'aime bien jouer au FPS de manière beaucoup plus rapide et nerveuse. Là où, alors qu'il me donne beaucoup de possibilités en théorie, j'ai l'impression qu'en pratique, sur tous les modes de difficulté sauf le mode facile, qui là pour le coup est trop facile, il me force à une économie extrêmement, enfin vraiment drastique, hyper drastique.
C'est marrant que t'aies pas plus joué aux deux, parce que pour moi il corrige quand même l'un des défauts majeurs.
Alors disons-le tout de suite, j'ai commencé BioShock 2 et je trouve qu'effectivement il corrige ça immédiatement. Alors, et il y a un meilleur, même il te donne des meilleures plasmides au départ. Le gameplay est plus pato parce que tu joues un protecteur, donc qui sont ces énormes personnages beaucoup plus lents. Mais je trouve que c'est justement beaucoup plus cohérent par rapport aux attentes que BioShock 1 de son joueur.
Ce qui corrige surtout et qui est important, c'est le fait de pouvoir utiliser le plasmide en même temps que l'arme, qui pour moi
en
est
plus
une des lourdeurs principales quand même du premier BioShock, qui t'obligeait du coup à passer des plasmides aux armes, et tu peux pas utiliser en même temps. Là, tu utilises les deux mains en fait finalement dans BioShock 2, et du coup t'as déjà un gameplay beaucoup plus nerveux, beaucoup plus intéressant, avec des matchs d'anthologie contre les Big Sisters, qui étaient assez intéressants. Et c'est vrai que je trouve que en termes d'action, le premier a un petit peu mal vieilli. C'est vrai que surtout quand tu compares par exemple avec la virtuosité de BioShock Infinite et tout son gameplay autour des rails, autour des rebonds, tout ça, enfin qui était assez incroyable et assez difficile aussi par moment. Je garde un très mauvais souvenir du cimetière. Quel cauchemar ce passage. Qui était assez étrange. Je ne comprenais pas trop comment ça s'insérait dans le reste de la mythologie, enfin dans le lore de BioShock, mais bon, passons. Le premier, surtout, comme tu le dis au début, il va être très didactique. Genre, oh là là, tu viens de récupérer tel plasmide. Il sera très pratique juste dans cette session, juste après. On t'apprend vraiment les bases. Hein. Oh, tu as l'électricité. Regarde cette étendue d'eau. Tu vas pouvoir électrocuter tout le monde. Du feu. Oh, une flaque d'essence. Tout est très, très pré-mâché. Ça, c'est sûr, comme tu le dis. Mais ça permet de mieux gérer du coup les niveaux suivants où on te fout des ennemis qui sont relativement fous. Hein. Je me souviens très bien des magiciens, mais les Houdini du coup qui disparaissent et qui réapparaissent un petit peu partout.
Ça, c'est bien.
Ça te permet vraiment d'apprendre d'être mieux armé en fait pour la suite. Mais c'est vrai que le gameplay du 1 est assez classique, je trouve, en fait, au final, en tant que jeu d'action. C'est vraiment pas par là que tu vas découvrir, en fait, toute l'originalité du titre, finalement. Puisque pour moi, elle vient vraiment d'ailleurs.
En ça, je trouve qu'il a beaucoup vieilli. Vraiment, c'est une occasion manquée parce que il sous-entend une ouverture qu'il n'a pas véritablement, ou en tout cas qu'il n'obtient pas avant, je te dis, le moment où tu récupères toutes tes armes et tu as déjà pu récupérer pas mal d'améliorations. Les combats contre les ennemis et surtout contre les Big Daddy, les protecteurs, deviennent beaucoup plus équilibrés, je dirais. C'est croiser tes 2, 3, 4 premiers protecteurs. Honnêtement, c'est un mauvais quart d'heure parce que tu manques. En gros, c'est. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est. Tu meurs, tu réapparais dans la chambre Vita, tu meurs, tu réapparais, tu meurs, tu réapparais.
Enfin, ouais, mais je pense que c'est quand même nécessaire.
C'est un grind.
C'est nécessaire d'avoir cette difficulté, cette presque impossibilité au début, tout simplement pour qu'on puisse te faire ressentir, véritablement ressentir, la puissance et que tu puisses avoir peur, en fait, finalement, de ces personnages.
C'est vrai.
Ils sont censés te foutre des jetons, c'est pas pour rien qu'ils sont sur la jaquette. Enfin, alors qu'ils sont relativement anecdotiques, en fait, finalement, dans l'histoire. Là encore, je pense, en fait, que le curseur au niveau du jeu, c'est vraiment placé dans la création de tout l'univers et ça a été fait de manière vraiment admirable pour le coup, avec une direction artistique que je trouve superbe, qu'au niveau des mutations physiques, la transformation des chromosomes, du coup, qui est assez dégueulasse et fascinante à la fois. Et
les chromosomes, ce sont les ennemis.
Oui, donc ce sont les ennemis mutants, en fait, qui ont consommé trop de plasmides, etc. Et tu commences d'ailleurs le passage dans le jeu vidéo dans l'aile médicale et ça parle de chirurgie esthétique et tu vois toutes ces démonstrations. Enfin, il y a le jeu traite admirablement bien de plein de sujets et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, très intelligent.
Précisons à ce moment-là, et c'est bien que tu parles justement de la chirurgie esthétique, ce jeu a un plus 18 sur la boîte, c'est pas pour rien. Si vous nous écoutez et que vous êtes impressionnable, qu'il y a certaines choses qui peuvent être dérangeantes visuellement pour vous, notamment dans le domaine du gore, c'est peut-être un jeu à sauter pour cette raison-là, et peut-être une saga à sauter. BioShock, pas en termes de jeu, mais en termes de saga, m'a valu le moment le plus dérangeant de tout ce que j'ai pu jouer avec le second DLC de BioShock Infinite et une magnifique scène de lobotomie. Là, je le spoil, désolé, mais vraiment, c'est pour bien avertir tout le monde, c'est pas Jojo ce qui s'y passe dans BioShock. Donc, il faut quand même être bien accroché. Je pense que ça vaut le coup de faire ce petit disclaimer-là parce qu'il y a plein de jeux qui ont un plus 18, ça va. Mais alors, celui-là, c'est autre chose. Il l'a vraiment bien, bien mérité. Tu trouves aussi ?
Ben oui. Après, je me souviens pas de cette scène assez bizarrement. Faut dire.
C'est dans le DLC 2 de BioShock Infinite. Hein, je rappelle.
Oui, je me souviens.
Et t'as même la manette qui vibre au moment crucial. Donc
je pense je pense que j'étais peut-être trop vieux. Du coup, ça m'a moins marqué. Mais le premier m'a peut-être plus marqué plutôt par le côté sur la maîtrise de l'angoisse plutôt que vraiment sur l'effet de jumpscare, etc. Ce que tu décris, c'est plutôt de l'angoisse, effectivement. Je me souviens vraiment, par exemple, le passage, donc Sander Cohen, qui est donc l'artiste qui fait des statues de plâtre. Donc tu as tout un passage où tu vas
tu peux leur donner un coup avec la clé à monnaie, il se passe un truc marrant.
Exactement, mais t'as un passage qui m'a marqué, c'est tu descends en fait dans une pièce où t'as des je sais plus si t'as des statues ou pas, mais alors tu te retournes et soit les statues sont apparues, soit elles ont bougé, elles ont changé de position. Et rien que ça, elles sont nombreuses, tu vois. Là, tu te dis, et elles bougent pas pour autant, hein, tu vois, elles ont juste changé de position. Et ça, c'est les mêmes trucs qu'il y avait dans, The Haunting of Hill House, la série sur Netflix. Et c'est pas grand chose, mais tu te dis, waouh, il se passe quelque chose. Et c'est par ces petites touches, en fait, d'angoisse disséminées, comme ça, au loin, parfois, genre de choses, un peu à la japonaise, finalement, tu vois, c'est un peu au fond, c'est un peu loin, c'est un peu mystérieux, mais en même temps, ça te concerne en même temps. Enfin, voilà. Je trouve que de ce niveau-là, le stress est bien travaillé.
La façon dont les ennemis apparaissent également, pour moi, reflète ça. Il y a une phase de horde où tu as plusieurs vagues d'ennemis qui apparaissent. Je crois que c'est au moment où tu essayes de reboiser la forêt, où les ennemis ont un peu l'air d'apparaître de nulle part. Je sais pas si c'était intentionnel ou simplement une limitation de l'époque, mais pour moi, ça me donnait vraiment l'impression justement du film d'horreur de tu rentres dans une salle, tu te retournes, puis soudainement il y avait un ennemi là où tu pensais qu'il n'y en avait pas. Hein. Enfin, c'est
mais rien qu'au tout début, quand tu récupères le fusil à pompe, si je me souviens bien, tu es dans une salle et la lumière s'éteint d'un coup.
Ah,
et
oui.
C'est une salle centrale. Et
il fait
des
plusieurs
portes.
Fois ça, le coup de la lumière. Oui.
Ouais, c'est près du théâtre, je crois. Il me semble, parce que t'as assez d'entrée dans tous les sens. Et du coup, t'as les ennemis qui viennent un petit peu partout. tout. Donc c'est ce que j'expliquais, côté didactique, fusil à pompe, horde d'ennemis, donc forcément voilà, c'est plus simple pour
toucher plusieurs à la fois.
Exactement, ouais. Dégâts de dispersion. Mais mais voilà, c'est assez intéressant cette façon en fait de te générer de l'angoisse. Et t'as aussi un passage où tu vois les gros hommes attaquer une porte, essayer de défoncer la porte. Ils peuvent pas, mais c'est juste que t'as vraiment l'impression qu'ils vont défoncer la porte et tu te speed pour passer à la zone suivante. Il y a plein de passages comme ça et je trouve que c'est vraiment très très bien raconté.
Et tu dis un autre point si tu le veux bien, et parlons du leg de BioShock, comme tu l'as déjà un petit peu évoqué quand tu m'as posé la question tout à l'heure. Moi je me pose cette question là de BioShock par rapport au jeu AAA en général. Est-ce que tu trouves pas que BioShock en 2007 a légué énormément de choses aux jeux grande production, dont notamment certains défauts, parmi lesquels les fameux audiologues qu'on peut ramasser et jouer au fur et à mesure pour comprendre un petit peu les motivations de personnages, certains qu'on rencontrera, mais beaucoup qui sont déjà morts. Et également, la violence quand même bien gore dans BioShock, qui est devenue un trait, j'ai l'impression, de ces jeux à gros budget.
Pour la violence, je suis pas sûr que la violence vienne forcément de BioShock. Je serais pas bien la situer parce que je suis pas forcément un expert du genre. Concernant les logs audio, c'est vrai que c'est quelque chose que t'as retrouvé de manière, enfin de toute façon tout ce qui est narration environnementale en fait. J'ai l'impression vraiment que ça a explosé avec BioShock. Enfin moi je l'identifie vraiment à ce moment-là. C'est sûr que BioShock a été un pas de plus, un grand pas en avant là-dedans. Et tout le monde forcément a voulu copier, tout simplement parce que c'est extrêmement bien accueilli. Et t'as trouvé des jeux. J'arrive pas très bien à situer Fallout 3 par exemple par rapport à BioShock, mais il a dû sortir après. Mais où tu trouvais aussi beaucoup de narration environnementale, évidemment, construit vraiment uniquement comme ça, mais en monde ouvert pour le coup. Mais voilà, c'est quelque chose de. Effectivement, je pense que BioShock a eu un gros impact. Je le verrais pas forcément comme un défaut. Parce que l'avantage justement de l'audiologue, c'est que du coup ça ne coupe pas ta progression finalement. Tu écoutes et c'est pas un papier que tu lis, tu vois, t'es pas à l'écran en train de lire tout ça comme dans beaucoup de jeux, comme dans Fallout d'ailleurs, t'as pas mal de trucs à lire aussi. Mais là, tu écoutes en fait et tu peux continuer à agir, tu peux continuer aussi à te faire attaquer tout ça. Donc ça permet un petit peu d'être toujours dans l'action, d'être toujours tendu, parce que finalement une lecture c'est jamais qu'un temps de pause dans un jeu, et ça te sort malgré tout de l'exploration, alors que là tu vis vraiment l'exploration comme dans la vraie vie, t'es tout le temps sur le qui-vive, tout le temps tendu, tout le temps en réaction. Et c'est ça qui est intéressant avec les audiologues, je trouve.
Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Ceci dit, la façon dont c'est implémenté dans BioShock 1, je me rappelle pas comment... Est-ce qu'Infinite le fait mieux de ce côté-là, mais c'est que ces audiologues peuvent être interrompus, notamment si tu déclenches, volontairement ou par mégarde, un nouveau moment dans l'histoire où tu as un personnage qui va te parler par la radio, ou alors qu'on t'impose un autre audiologue parce que en faisant une certaine action, ça va déclencher la lecture obligatoire d'un audiologue pour comprendre un peu le contexte. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est cette interruption. Au final, oui, tu peux appuyer sur Select ou sur n'importe quelle touche du clavier qui correspond à ça et aller le réécouter ou aller le relire, mais ça casse justement cette immersion-là et ça te rappelle que t'es dans un jeu vidéo et que tout n'est pas parfait.
Voilà. Pas tant que ça, parce que je me dis, finalement, ton appel radio, c'est comme un appel téléphonique et t'es juste interrompu finalement au téléphone de ce
c'est
que tu faisais.
Faux.
Comme quand tu dis, ah, je suis sur Twitter, d'un coup, tac, tu reçois un appel, bon, bah, tu coupes ton truc et tu reprends après. Pour moi, c'est vraiment une manière de te maintenir, au contraire, dans le rythme, finalement. Mais toi, du coup, ce mélange entre, finalement, action, scénario et énigme, hein, parce qu'il y a pas mal aussi de mini-énigmes dans le jeu, pour toi, c'est peut-être mal équilibré, pour le coup.
Alors, un mot quand même sur les énigmes. J'aimerais dire du mal des énigmes de piratage dans ce jeu, pour avoir fait quelques énigmes de piratage dans BioShock 2 qui sont bien meilleures puisqu'elles sont basées sur du timing.
Peut-on parler d'énigmes de piratage dans BioShock 1 en même temps ?
Ben, en fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on m'a mis un jeu Humble Bundle de 2012
non,
à l'intérieur de mon BioShock.
Moi j'adore, je suis hyper fort à ce jeu.
Non, mieux, on dirait un mini-jeu tiré d'une des épreuves, tu sais, une fois que t'as récupéré les 7 clés dans Fort Boyard.
Non mais c'est Pipe, enfin c'est un jeu DOS qui existe depuis hyper longtemps.
Bien sûr.
Voilà,
il y a un liquide qui s'écoule à partir d'un point d'entrée et il faut à la fois dévoiler des cases avec des tuyaux pour pouvoir réarranger les tuyaux et faire tout un chemin. C'est un jeu typique. Vous avez des versions comme ça de ce jeu-là sur iPhone, etc. Là c'est un mini jeu pour pouvoir pirater soit par exemple des tourelles ennemies pour qu'elles vous aident ou pour par exemple pirater des boutiques pour qu'elles proposent des prix plus avantageux.
Mais du coup, je piche pas en fait. Enfin, j'aimerais vraiment
moi,
savoir.
Je trouve ça redondant.
Moi, j'aimerais juste savoir à quel moment ils se sont dit, tiens, on va mettre ce mini-jeu-là pour le piratage.
C'est une excellente vraiment, question. Parce que c'est long, c'est répétitif. Enfin, quand t'as pas joué à Bioshock depuis longtemps, que tu fais ton premier piratage, tu fais, ah, c'est cool, ils sont marrants, ces puzzles, etc. Quand c'est la 10e fois. C'est plus possible.
T'en as forcément marre, oui, c'est sûr.
Et c'est pour ça que je préfère ce qu'ils ont trouvé pour Bioshock 2, parce que pour Bioshock 2, c'est un peu comme une jauge dans un jeu de golf, tu sais, t'as l'aiguille qui bouge et tu dois appuyer sur le bouton au bon moment. C'est aussi bête que ça. Et si tu l'appuies au mauvais moment, tu te prends une pénalité. Si tu appuies au bon moment, tu obtiens ce que tu voulais avec le piratage. Et puis si tu appuies au très bon moment sur une zone très spécifique en bleu plutôt qu'en vert, tu peux même obtenir un bonus en prenant un peu de risque. Et ça, c'est intelligent. Parce que ça va relativement vite, mais ça demande quand même quelque chose de concret du joueur.
Mais t'es plus dans le réflexe, là.
Voilà, et t'es plus dans le réflexe, mais surtout, t'es plus dans l'interaction rapide qui peut malgré tout échouer si tu fais pas gaffe. Donc, pour moi, ça marche mieux comme mini-jeu plutôt que vite, réarranger les panneaux, etc. Enfin, encore une fois, c'est marrant les 5 premières fois, mais après, ça devient vraiment pénible. Donc, sur l'équilibre plus général, tu me posais la question entre action, énigme et scénario. Je trouve que c'est haché, justement. Je trouve que le jeu, assez peu subtilement, alterne entre « maintenant c'est la horde, maintenant faut aller chercher un item, maintenant faut aller résoudre une énigme, maintenant c'est re-la horde ». Et à la fin du jeu, oh, un boss, t'as jamais eu un boss, voilà, il y a un boss. C'est ça que je trouve un peu dommage. D'autant qu'on rencontre un personnage à peu près à la moitié du jeu qui aurait pu être un excellent boss. Et alors, c'est pour de bonnes raisons scénaristiques qu'il se passe ce qui se passe, mais je trouve que c'était malgré tout une occasion manquée d'avoir vraiment une confrontation avec un ennemi solide. Après, la justification a posteriori, je peux la comprendre aussi, c'est oui, mais les protecteurs sont des mini-boss qui sont un petit peu partout, avec une vraie logique risque-récompense. Est-ce que tu vas en combattre un de plus et gaspiller des ressources ? Mais avec évidemment l'intérêt de pouvoir gagner des ressources hyper rares et extrêmement utiles qui te permettent de développer tes pouvoirs, de devenir plus puissant, de gagner de nouvelles possibilités également dans ton exploration, donc avec de nouveaux plasmides et avec simplement plus d'Adam qui te permet d'acheter d'autres plasmides, d'autres fortifiants, ce genre de choses.
C'est marrant parce qu'on voit les mêmes choses, mais on les ressent pas pareil. Parce que moi, par exemple, je trouve que...
Comment tu ressens ça, toi?
Je trouve justement que l'absence de boss... Ça renforce ce côté aventure justement parce que je trouve que le jeu arrive bien à jouer finalement avec les codes du jeu vidéo et à savoir se départir de ces codes artificiels, donc à savoir le boss, même si le boss de fin je trouve est un poil décevant pour ça.
Oui.
Enfin, il n'y a jamais eu un bon boss de fin dans Bioshock, hein. Ça par contre faut oublier.
Et Bioshock Infinite c'est probablement le pire. J'ai pas fait Bioshock 2 en entier, mais oulala.
Bioshock 2, ce sera encore pire, je pense.
Bioshock Infinite, c'est 15 vagues d'ennemis, au revoir.
Je te parle pas de Bioshock 2, alors.
Oh non.
Mais du coup, voilà, il y a ce côté plutôt, on reste dans la fluidité. En fait, je pense que l'absence de boss te permet
c'est marrant.
De moins séquencé, de moins marqué, même si c'est très séquencé géographiquement.
Pour moi, c'est horriblement séquencé, justement.
Oui, t'as vraiment des séquences géographiques et des séquences de passages de personnages qui tu vois prennent de l'importance à un moment dans le scénario et puis disparaissent un petit peu au fur et à mesure, tout ça, et mais ça te permet vraiment, tu vois, tu fais comme un voyage. Moi je le prends vraiment comme un voyage et ça renforce un petit peu la fluidité tel que je le ressens, mais je comprends que c'est aussi une frustration de pas avoir d'affrontement, et je trouve personnellement qu'il y a plutôt un bon équilibre entre l'action et l'exploration, et j'ai toujours l'impression qu'on est vraiment à cheval entre les deux, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit trop marqué, parce que t'as une zone, tu nettoies un petit peu, t'explores, tu nettoies un petit peu, t'explores. J'ai l'impression que t'as un truc assez fluide qui, certes, qui t'oblige par nature, du coup, puisque dès que t'es dans une nouvelle zone, il faut commencer par éliminer les ennemis. Mais il y a une avancée qui est vraiment assez logique, et que je rapprocherais presque un petit peu toute proportion gardée, à un jeu comme Left 4 Dead, où, où voilà, c'est vraiment, tu essaies d'avancer progressivement, toujours plus loin, t'explores, tu mets ton... Voilà, ici, on récupère deux, trois objets. Allez, on a passé ce camp ici où on est sauf, et là, on peut traverser jusqu'au prochain havre de paix, en fait, finalement. Et j'ai l'impression que le jeu est plutôt une succession, voilà, de comment je passe d'un havre de paix à un autre, en sachant que sur le chemin, forcément, ça va barder. Et je trouve que sur ce côté-là, c'est très, très bien construit, parce que quand tu passes d'un havre à un autre... T'as encore de l'histoire qui se raconte, t'as encore des choses à voir, des choses à remarquer, pas forcément à écouter, mais
pour moi c'est ça qui le sauve, c'est justement toute cette histoire, tout ce lore, toute cette matière qui a ce jeu-là est comme une éponge, je veux dire, tu le presses, t'en as toujours plus à l'intérieur, et c'est ça qui me plaît beaucoup avec BioShock. C'est pour ça que je continue à jouer à un jeu dont pour moi le gameplay est passable la plupart du temps. C'est pour cet univers, c'est pour Rapture, c'est pour Andrew Ryan, c'est pour Atlas, c'est pour Tenenbaum, c'est pour...
Mais même au-delà de ça, j'irai jusqu'au plus petit habitant de la ville, parce que c'est ça aussi qui est fascinant, les audiologues,
oui, Pierre
c'est
Machin,
que tu découvres plein de personnages dont tu n'entendras plus jamais parler, mais ça te donne en fait un visage...
Les contrebandiers...
Ouais, c'est du journalisme local en fait, les audiologues, c'est exactement
c'est
ça. C'est le West France de,
enfin, c'est
de
du journalisme
sous l'océan.
C'est du journalisme vérité, c'est du témoignage.
Bah en fait c'est de la vie réelle concrète de personnes qui vivaient dans cet univers et qui ont des problèmes tout cons comme tiens est-ce que je me fais refaire le visage, tiens mon mari me trompe, des conneries comme ça, et qui les poussent du coup aussi dans leur propre folie, hein. C'est un jeu qui traite beaucoup aussi de la folie,
c'est les Marseillais à Rapture,
exactement. mais voilà, enfin moi ça me fascine en fait. Je me souviens les appartements, la vie dans les appartements où tu comprends la façon dont les gens vivent, et puis tu vois la lutte des classes, etc. Ça, c'est surtout dans le 2, qui a une thématique un petit peu différente, qui traite beaucoup
plus. J'ai joué 30 minutes et c'était au gros sel. Hein.
En fait, si tu veux, chaque... en tout cas, le 1 et le 2 fonctionnent vraiment en miroir. Hein. Le premier va être vraiment sur le capitalisme, le 2 va être sur le communisme, et son DLC va être sur le scientisme. Donc c'est très intéressant, déjà, Minerva's Den, hein, que je trouve vraiment... génialissime pour conclure Rapture. Minerva's Den est absolument magistral.
Je retermine BioShock 1 parce que j'ai déjà fait une première fois là sur Switch ce week-end, et ensuite je continue BioShock 2 sur lequel j'ai joué une demi-heure. Donc,
Minerva's Den est frustrant dans le sens où il te propose un des meilleurs plasmides qui est le trou noir, que je trouve absolument génial. Je te laisserai découvrir son gameplay qui est très très drôle.
Rien que ça, c'est très tentant.
Et surtout c'est sa conclusion, qui est extrêmement intelligente dans la façon de clore Rapture.
Vous êtes tous cons, au revoir.
Enfin, tu verras, je te laisse faire, parce que je trouve que voilà, la façon dont les jeux racontent la position du joueur est pour ça Infinite aussi extrêmement intéressant.
Oui, oui.
Et le prochain, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va raccrocher les wagons avec tout l'univers ? J'espère, parce que à aucun moment tu te disais qu'Infinite c'était relié à Rapture. Colombien qui se déroule donc au début du 20e siècle, bien avant.
On parle de Vox Populi dans les deux, on parle de Lamb dans des contextes différents dans les deux.
À quel moment
il y a des miroirs géants, hein.
À quel moment ils vont se relier, tu vois, il y a des thèmes, mais il y a un géographique, physique, enfin tu vois, temporel, enfin c'est ça aussi qui est fascinant. Enfin je trouve que c'est typiquement des jeux vidéo à développer en roman. J'adorerais il y a une vraie histoire, un vrai travail là-dessus.
Ken Levine donne les droits à Lou, je pense qu'il a beaucoup d'inspiration.
Oh oui, il a peu de temps surtout.
Et parlons justement de ça, parlons de l'aspect politique sociétal de ce premier BioShock. Comment est-ce que tu trouves qu'il a vieilli ? Comment est-ce que tu trouves qu'il peut être peut-être pertinent en 2020
Pour le premier, du coup, sur le capitalisme, je sais pas s'il y a encore beaucoup à tirer finalement.
Est-ce que tu trouves caricatural peut-être dans son analyse ?
Non,
est-ce que tu
pas du
gros
tout. Non, écoute, pour voir de plus en plus de libertariens sur les réseaux sociaux, avec tout ce que ça veut dire et rien, mais il y a beaucoup de The Débilos sur Twitter. Mais voilà, il y a non, ça dit, ça révèle des vraies choses, ça révèle des vraies fractures de pensée et des vraies erreurs de pensée aussi. Et puis ça montre la folie finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est un jeu complètement post-apocalyptique et donc ça interroge plein de concepts, le progrès. Le premier, c'est la première notion que tu interroges dans le genre du post-apocalyptique. Et là du coup, finalement, qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour devenir des surhommes? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Surtout que finalement, en fait, enfin, c'est ça qui est assez drôle. T'es plasmide, te présente, voilà, je vais allumer ma cigarette avec mon doigt. Est-ce que c'est vraiment plus intéressant qu'avec un briquet? Surtout qu'en sachant qu'au final, tu peux littéralement créer des boules de feu qui vont exploser l'appartement. Enfin, tu vois, j'adore cette façon aussi qu'ils ont de
science sans conscience, etc.
Exactement. Enfin, tu te dis mais waouh, et par moment, enfin je veux dire, la vraie vie c'est ça, la bombe atomique c'est ça, c'est juste que tiens, je m'interroge sur la radioactivité, etc., le traitement de l'uranium, machin, et
diégétiquement,
boum, tiens,
c'est un jeu post diégétiquement, c'est un jeu post bombe atomique d'ailleurs,
oui, oui, bien sûr,
parce que c'est les années 60,
mais on est lié, la bombe atomique a été un des premiers chocs, enfin même pas, c'est la première guerre mondiale, le premier vrai choc de post-apocalyptique.
Un truc qui est fascinant, c'est que le nazisme est traité d'assez loin dans BioShock 1, en tout cas. Pourquoi ? Parce que les deux grandes oppositions qui sont présentées, alors certes, c'est le monde des années 60, donc c'est la guerre froide. C'est le contexte général dans lequel on est. Et Andrew Ryan, encore une fois, présente Rapture comme en opposition aux deux grands modèles que sont d'une part le capitalisme et d'autre part le communisme, d'une part Washington, d'autre part Moscou. On est d'accord.
Oui, mais...
Mais il est d'inspiration capitaliste. On est d'accord.
Il est d'inspiration capitaliste et tu sens... Enfin, les relents fascistes chez Andrew Ryan sont là, bien évidemment.
Et le confort à utiliser la science nazie, à utiliser les expérimentations
tout à fait,
dans les camps.
C'est pas pour rien. La présence de Tenenbaum, évidemment, elle y est pour beaucoup. Enfin, indice.
C'est beaucoup plus subtil et je sais pas si c'est, d'une certaine manière, une facilité... De Ken Levine et de son équipe qui ont écrit le jeu pour le mettre un petit peu sous le tapis et pas trop avoir à traiter l'idéologie du fascisme, du nazisme qui était encore frais dans les années 60, on va dire. Ou est-ce que c'est pas génial parce que justement ça nous explique une époque où on faisait semblant de l'avoir mis sous le tapis alors qu'il bouillonnait encore les gens qui étaient vivants dans les années 60, c'était des gens qui ont vécu la période fasciste, la période nazie.
Et ben c'est exactement ce que j'allais dire et je suis content que tu le soulignes parce que pour moi c'est exactement ça et c'est aussi en ça que je trouve ça très intéressant, c'est que pour moi la présence de Tenenbaum, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle révèle, Souchong aussi qui lui n'est pas un médecin nazi mais incarne
Souchong,
justement
c'est Tenenbaum virgule empire.
C'est ça, mais il incarne la science nazie.
C'est Tenenbaum sans les regrets.
Mais Souchong, ça me fait tellement bizarre à chaque fois parce qu'à chaque fois je pense à Alain
Souchong. Alain, bien sûr.
Oui, enfin, voilà.
Des regrets. Mais bien sûr, oui.
Et du coup, ça fait toujours un petit peu bizarre. Et, tu sais, ça fait un peu Souchong. Enfin, je sais pas, c'est
mais où est-vous le zip?
Pardon, vous le dites Tenenbaum. Mais voilà, je
non,
pense que.
Oh non!
Alors, Tenenbaum est un de mes personnages de jeux vidéo préférés. Je la trouve extrêmement bien, extrêmement touchante. J'aime beaucoup ce personnage.
Je la trouve pas assez ambiguë moralement.
Mais je trouve.
Elle est trop sympa trop vite.
Oui, mais quand tu connais son passé, je trouve que ça rend le personnage intéressant. Et puis, faut que tu fasses encore
le. Tu veux dire par là qu'elle a déjà eu le temps d'évoluer?
Oui, elle est beaucoup plus vieille que par rapport à tu vois, il y a des années qui se sont passées depuis où elle était.
C'est plus la guerre. Oui, effectivement.
Exactement. Ça se passe 20 ans plus tard, hein, 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc pour moi, cette présence-là indique le. Et Ryan ne parle pas du nazisme tout simplement parce que il est fasciste et il incarne une forme de nazisme. Bien
parce
évidemment.
Parce qu'il a normalisé le fascisme.
Mais n'oublie pas que. Une des premières choses dont il parle quand tu descends, je pense que c'est quand tu descends dans la ville, mais en tout cas c'est évoqué très rapidement quand tu commences l'aventure, il te parle des parasites. Et pour moi le terme n'est carrément pas
Il cache
anodin.
Beaucoup de choses le terme.
Exactement,
oui.
Enfin c'est forcément, il te renvoie forcément à l'Allemagne nazie, il te renvoie forcément à
plein
de choses.
Il te renvoie à toutes les personnes qu'il peut considérer comme qu'un homme de son état peut considérer comme inférieur.
Exactement.
Connaissant son histoire, dedans, il y a évidemment du racisme, il y a probablement de l'antisémitisme, mais il est assez proche de Cohen, donc c'est ambigu.
Disons qu'en fait, C'est un nazisme qui ne prend pas la forme de l'antisémitisme, si tu veux, qui va être métaphorique, mais qui va être sur le rejet, finalement. Le rejet de l'autre, donc le parasite, finalement, tu vois, qui n'a même plus d'identité. C'est-à-dire qu'il n'est pas juif, il n'est pas tzigane, il n'est pas homosexuel. C'est juste, c'est le parasite, celui qui va profiter. Et finalement, c'est une figure d'épouvantail.
Et le parasite, et c'est marrant parce que c'est toujours Ryan est toujours dans le réactionnaire. C'est-à-dire, le parasite, c'est toujours celui qui m'en veut ou c'est toujours celui qui ne m'empêche pas de tirer 100% de ce que j'ai fait.
Disons qu'en fait, il développe au maximum la thèse de l'épouvantail qui est souvent utilisée par l'extrême droite notamment, et qui en fait te sert à faire un bouc émissaire. Là, ton bouc émissaire, en fait, t'as pas besoin d'un véritable bouc émissaire parce que Rapture n'existe pas vraiment finalement. Donc on peut te présenter du coup les parasites, puis voilà, ça englobe quelque chose d'assez nébuleux, même si c'est un peu plus détaillé finalement dans le 2, parce que le parasite, évidemment, c'est celui qui ne va pas gagner d'argent, qui vit au crochet de la société, etc.
Dans Rapture, le parasite, c'est les merde, les contrebandiers, puis c'est Fontaine, puis c'est Atlas, puis c'est toi.
Et enfin, à l'extérieur, c'est la religion, ce sont les socialistes. Enfin voilà. Donc tu retrouves forcément cette forme de nazisme chez Andrew Ryan. Et c'est pour ça que je trouve le jeu intelligent et intéressant, mais malgré toutes les mouvances néo-nazies qui sont apparues. Depuis, hein, ça a quand même pas mal évolué déjà en 13 ans. Je trouve qu'un jeu qui vraiment est sorti dans un contexte pourtant plus récent, et je voulais te poser la question, parce que moi j'ai ma petite idée, mais tu as fait Infinite, du coup, tu as joué à Infinite.
Oui.
Et tu te souviens des premières scènes, du coup.
Oui.
Le racisme est une question centrale.
Mais j'ai rejoué à la scène aujourd'hui même. J'ai rejoué à la scène où tu récupères où tu gagnes le petit concours, la tombola, à Columbia, et tu as le choix entre jeter la balle sur celui qui organise la tombola ou jeter la balle, ce qu'on te demande de faire normalement, enfin ce que celui qui organise la tombola t'incite à faire, sur deux détenus qui s'apprêtent à être caillassés, violentés, tués, enfin voilà, qui sont des révolutionnaires, dont une femme noire.
C'est un couple mixte, voilà.
Et clairement, c'est entouré d'imagerie excessivement et ultra explicitement raciste. Donc on est en train, c'est vraiment la scène clé où on te dit Columbia, grande flèche. Gros racisme.
Et ça a été un moment assez waouh.
Ce que je trouve intéressant là-dedans, en fait, c'est que je pense que ça ferait pas de remous, tant de remous que ça, dans le sens où Columbia, d'une part, est construite en opposition aux États-Unis d'en dessous, malgré tout, et je pense qu'il y a pour pas mal de monde non pas une mise en parallèle, mais vraiment une mise en opposition quand ils voient ça, même si évidemment c'est volontairement une mise en parallèle parce que c'est, on va dire, l'Amérique ultra-religieuse qui y est représentée, qui y est caricaturée. Et sur le racisme, pour le coup, c'est, même si ce racisme-là existe évidemment aujourd'hui, comment dire, c'est l'absence de représentation comme celle-ci, c'est-à-dire, par exemple, je vais prendre purement l'exemple qui est du jeu, comparer quelqu'un de noir à un singe, c'est ce que font les personnages du jeu dans cette scène vraiment séminale pour présenter le racisme à Columbia. C'est en grande partie dans la société, dans le mainstream, le fait que ce racisme-là soit majoritairement vu comme étant inacceptable, qui fait que il y a une énorme cécité sur le racisme systémique, sur les problèmes d'aujourd'hui qui sont, comment dire, qui ont un impact énorme, mais qui sont un peu plus enfouis ou sur lesquels on ne regarde pas directement, qui sont plus formulés de la même manière. Quand bien même il existe évidemment du racisme explicite encore aujourd'hui, mais plus de la même manière et clairement plus à l'intensité, clairement pas à l'intensité qui est présentée à Columbia dans BioShock Infinite. Donc je pense pas d'une certaine manière que ce jeu-là ferait polémique et que, par exemple, des milieux d'ultra-droite ou des trucs comme ça trouveraient quelque chose à y redire et feraient du grabuge en ligne là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Bah, je pense plutôt sur le contraire, tu vois, finalement.
Je pense que le message est pas très subtil, en fait.
Ah bah, il est pas subtil. Enfin, je voudrais juste revenir sur la scène parce que je trouve que la façon dont t'en as amené est vraiment, et ça fonctionne très très bien pour te choquer, justement. Mmh. C'est que t'es dans cette fête foraine, cette ducasse, comme on dit dans le Nord, très, classique, hein, finalement. Tu t'amuses d'un coup et puis t'as le, et là.
Et tu rends compte que le prix de la tombola est très raciste.
Et voilà. Et tu tombes là, et ça te tombe dessus, quoi. Et là, enfin, c'est, t'as vraiment l'impression de,
l'impression de regarder un truc que tu devrais pas regarder. Ça, c'est clair. Surtout en tant que blanc, t'as ça devant les yeux, tu fais,
Je me souviens vraiment du moment, ça m'avait vraiment choqué.
Bien sûr.
Dans le sens où, tu sais, t'as l'impression d'être dans une salle, tu rentres dans un truc, tout est normal, et puis d'un coup, t'en rends compte que tout le monde est à poil. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et c'est à peu près ça, et pour ça, ils arrivent très bien à retranscrire ça. Mmh. Mais j'ai vraiment peur, j'ai cette sensation que si le jeu était sorti aujourd'hui, il y aurait eu des voix pour s'élever, pour dire ah mais
après des cons malheureusement
ils nous font
pas de politique dans mon jeu
voilà, pas de politique dans mon jeu déjà, ils nous font la morale machin, genre de choses,
les pauvres petits choux.
J'ai l'impression que et pourtant le jeu est pas très vieux, c'était 2013, hein, je crois, Infinite.
J'ai l'impression, oui.
Et j'ai l'impression qu'en 7 ans, on a pris un TGV. Les années Trump, forcément, ont beaucoup joué. Le monde a quand même pas mal changé, rien que comme ça. Donc du coup, c'est assez. Je pense que le jeu aurait un accueil très très différent aujourd'hui.
Mmh. 2013, tu as tout à fait raison.
Donc c'est un peu étrange.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
J'aimerais bien le retour du coup, si des gens veulent en discuter après sur Twitter. Mais après, je suis très content que ce jeu ait été fait parce qu'il évoque quand même pas mal de choses assez intéressantes, même si malmène certains personnages. Infinite, tous, mais Infinite était un tout petit peu décrié à sa sortie, et je trouve qu'il malmène quelques personnages, Daisy Fitzroy notamment, même si le propos en soi est intéressant sur ce qu'ils ont voulu montrer, sur le fait que voilà, finalement, il n'y a pas de scène révolution.
Oui, mais c'est extrêmement maladroit et all sides. Et très. Vous voyez, il y a aussi des gens pas bien du côté des révolutionnaires.
Oui,
qui est vrai, mais qui est extrêmement mal
amené. C'est mal amené. Très mal écrit, en fait, je trouve.
Et qui sabote l'idée même de réclamer un changement pourtant normal dans la société.
En fait, pour moi, le moment où Daisy Fitzroy, elle se retourne d'un coup, tu vois, le moment où le personnage se retourne, pour moi, et là, je pense qu'ils ont voulu aussi te choquer, sur un personnage...
C'est un moment très Game of Thrones, dans le mauvais sens du terme.
Autant dans Game of Thrones, je trouve que ça marche très bien la plupart du temps, autant ça marche très bien sur la fête foraine, sur, tiens, finalement, cet endroit où je suis, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Ouais. Ça ne marche pas sur un personnage lequel
si tu veux, tu joues à un BioShock, tu sais que tu vas avoir que ça va être rock'n'roll, et en plus tu commences, enfin je veux dire le début de BioShock Infinite avant ça, c'est pas génial non plus, tu vois ce qui lui arrive à Booker DeWitt, mais
bien
quand
sûr.
Même c'est, si tu veux, là on est vraiment en train de te retirer le sol, de te dérober le sol en dessous des pieds, hein,
mais on sait que tu ne peux t'attacher à personne par nature, tu le sais d'expérience, finalement Tenenbaum est la seule meuf sûre finalement de la licence, et malgré son passé, mais c'est justement grâce à son passé finalement entre guillemets, mais c'est justement parce que son passé est compliqué que c'est le seul personnage avec une rédemption presque totale, avec toujours ce côté inquiétant malgré tout, peut-être à cause de l'accent, je sais pas trop, mais en tout cas Daisy Fitzroy en termes d'écriture, ça aurait mérité plutôt justement une évolution lente et une progression dans la folie plutôt que paf, d'un coup comme ça on te le sort et on te l'éclate. Je trouve qu'en termes d'écriture, c'est là où le jeu il te perd. C'est un petit point de détail.
C'est une facilité d'écriture pour avoir un twist un peu cheap, ça c'est clair.
Enfin, Alors que dans le 1, pour revenir du coup au premier, la folie elle est présente partout, et tu as finalement peu de retournements, et t'en as un majeur, on va dire, en termes de personnages.
Oh, t'as deux oui, mais oui, ok.
Un majeur, principalement, surtout, voilà. Mais qui est presque attendu, en fait, au final. Et disons que ce qui est intéressant dans le premier BioShock, et c'est pas vraiment le cas dans Infinite, même si le contexte est assez similaire, c'est que dans le premier, t'es une victime du début à la fin. C'est que tu es là, t'as pas choisi d'être là, c'est que tu t'es écrasé en mer dans ton avion, et t'as pas choisi d'être là. clin d'œil. Mais voilà, tu es victime de tout ça. Tu te retrouves finalement pris entre plein de gens, entre plein de camps, entre plein de trucs. Mmh. Et en fait, ça te hurle aux oreilles dans tous les sens.
Tu survis à une ville qui est en crise,
qui est en guerre civile, enfin c'est la guerre civile, et t'es là, t'es pris au milieu de tout ça.
J'aime beaucoup Androyan au milieu qui va faire « Vous allez voir, dans une semaine, tout est réglé, on fait une parade, je suis génial, je vais pendre tous ceux qui sont pas d'accord. »
Et c'est ça qui est génial, c'est que t'as l'impression, c'est comme si tu te balais dans une ville et ça explose de partout, tu sais même pas pourquoi t'es pris là, et c'est le bordel total, et tu veux juste pouvoir sortir de ce putain d'enfer, en fait.
Pour moi, le soft twist, c'est que pendant un moment, toutes les interactions que t'as avec Andrew Ryan au départ, c'est des enregistrements. Et le premier moment où t'as vraiment Andrew Ryan qui te parle en direct, pour moi, ça, c'est un vrai plot twist. Alors, je comptais pas dans mes un ou deux plot twists généraux du jeu, hein, mais c'est un vrai plot twist en mode « Ah merde, il est pas mort !» Il est en vie, il existe, tu vois. Il est pas, il a pas été oxy dans tout ce bordel avant que j'arrive. Non. Et ça, je trouve ça intéressant. Ce moment-là où tu réalises, oula, le loup est toujours dans la bergerie.
Tout à fait.
C'est ça qui est assez rigolo. Bon, je sais pas si tu y as rejoué avec un PC de 2007. Comment tu t'es mis pour pouvoir nous en parler aujourd'hui? Comment est-ce que tu y as rejoué?
Alors, à l'époque, déjà, je l'avais découvert sur Xbox 360.
Ah, d'accord.
Donc, je joue carrément au FPS sur manette. Oui, je vais pas revenir dessus.
Ah, la manette, c'est encore un degré de guindé en plus du reste. Hein.
Je vais pas revenir dessus, mais le combo clavier-souris, pour moi, c'était assez compliqué. Je suis en passe d'y arriver grâce à Minecraft, merci.
Oh.
Mais là, j'y ai joué sur Switch. Je suis resté encore sur console.
Je l'ai refait sur Switch aussi.
Et c'est pas si mal. Je sais que ce sera pas aussi beau que sur PC, bien évidemment, mais c'est franchement pas si mal, surtout que la version était upgradée, ils ont rajouté plein de décors, plein de trucs comme ça. T'as quelques effets qui sont moches, je pense que c'est plus les effets qui sont pas toujours très réussis, mais j'aime bien le fait que par exemple la vie sous-marine est beaucoup plus présente à travers les fenêtres, ce genre de choses. Ça rend le truc un peu plus féerique, ça rend l'extérieur beaucoup plus féerique, et c'est assez sympa, et ça rend le cauchemar plus vivant à l'intérieur. En fait, tu te sens encore plus prisonnier.
Quelque chose à dire sur la trilogie sur Switch, hein. Des trois, le premier BioShock est celui qui a les contrôles les moins bien fichus et qu'on ne peut pas changer. C'est le moins bon portage des trois, je trouve. Et je vous recommande beaucoup plus le 2 et Infinite sur Switch que le premier. Le premier, refaites-vous-le sur un autre support. Je peux pas jauger pour les autres consoles, mais en tout cas sur PC, la version remasterisée qui existe, notamment sur Steam, fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, petite parenthèse, mon cher Louis, j'ai fait tourner la version originale avant de faire tourner la version remasterisée sur mon PC Windows 10, juste pour tester, tu vois, pour voir ce qui se passait avec l'original, au-delà évidemment des bonnes textures, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que une fois que tu rejoins, déjà quand tu rejoins le phare, il y a plus de son sur un PC moderne, dans la version originale, donc déjà un peu problématique. Et ensuite, après ton premier trip en Batiscaf, quand tu arrives dans Rapture, tu es prisonnier à jamais du Batiscaf, parce que l'animation où la personne doit se retourner et commencer à attaquer ton Batiscaf, elle se déclenche jamais.
Ah.
Donc c'est pour ça qu'il faut jouer à la version remasterisée si vous avez un système d'exploitation récent sur votre machine. Sinon ça marchera pas.
C'est embêtant.
Voilà. Il y a quelque chose dans le code où le jeu tourne, mais juste, il y a un script, il ne se lancera jamais.
C'est chelou,
c'est assez rigolo. Très bien. Bah écoute, si on a fait le tour de tout ça, c'est une belle plongée de quasiment une heure dans le monde de Rapture. Merci mon cher loup de m'avoir accompagné là-dedans. Si tu veux bien, on va faire un petit peu de courrier maintenant.
Ah oui, j'aime bien le courrier.
Eh bien écoute, on va commencer par un commentaire Apple Podcast. C'est DJ Poulet, fantastique pseudo.
Alors, j'adore.
C'est vous qui donnez des notes au podcast, mais moi je vais donner une note à ce pseudo. C'est un 10 sur 10, DJ Poulet. Et son commentaire du 26 avril 2020. Un excellent podcast sur le jeu vidéo. Quel bonheur de retrouver les voix de Yann et Lou pour nous faire découvrir d'anciens et nouveaux jeux. Tu vois, cette fois-ci, c'est plutôt ancien. La réalisation est très pro. Merci. Et les commentaires pertinents. Merci. Il faudrait faire venir plus souvent des invités. Continuez comme ça, les gars. Voilà.
Merci avec plaisir. Merci. C'est vrai que des invités, bon, on va essayer quand ça s'y prête, évidemment.
C'est un peu compliqué en ce moment, mais dès que ça s'y prête, Lou a tout à fait raison, ce sera le cas sur Twitter. Deux petites choses. Premièrement, j'ai fait tourner un sondage sur notre compte, @lacartouchebp, abonnez-vous-y, il s'y passe des choses rigolotes, notamment des anecdotes avant et pendant qu'on enregistre, ce genre de choses. Parfois je fais un petit tweet rigolo, parfois je poste un sondage, et ce sondage c'était... Quel est votre Bioshock préféré ? Eh bien, celui qui est arrivé en tête, bonne nouvelle mon cher Lou, c'est le premier, celui dont on parle aujourd'hui, à 54% des 174 votes. Vient ensuite Bioshock Infinite à 34% et Bioshock 2 à seulement 10%. Pourquoi tu penses qu'il est si mal aimé finalement Bioshock 2 ?
C'est un 2.
Il souffre de sa comparaison,
oui,
et de la redondance, c'est ça ?
Déjà, je pense que ça joue beaucoup. Le fait d'être moins créatif, c'est difficile. Hein. Infinite a aussi été dans cette position-là assez compliquée alors qu'ils sont partis de rien, mais malgré tout, voilà, t'as la comparaison. 2, c'est encore pire parce que t'es au même endroit et c'est très difficile de passer après le premier Bioshock. Comme c'était difficile de créer une histoire aussi intéressante. Je la trouve très intéressante, l'histoire du 2. Elle va être beaucoup plus personnelle, finalement, aussi, à la fois. Elle traite d'autres thématiques. Comme j'ai dit, on est plus sur le côté du communisme. Mmh. La construction aussi est différente, puisque là, on ne peut plus retourner en arrière à chaque fois qu'on avance dans le jeu. Donc, il y a pas mal de choses qui changent. Je comprends pourquoi il est moins bien aimé, c'est qu'il surprend moins aussi finalement, tu vois, c'est un peu dans la même veine, mais il a quand même de beaux moments. Donc ça me paraît cohérent, tu vois, c'est pas un 9, c'est un bon 7, mais peut-être un 8 à la rigueur, mais c'est pas un 9.
Donc tu parles de 2 sur 10, c'est très bien.
Exactement.
Une question via Twitter, c'est Amandil qui demande, existe-t-il d'autres jeux comparables à Bioshock en termes d'univers ? Bah, toi mon cher Lou, esthète que tu es, as-tu des exemples pour Amandil ?
Alors pour Vincent de son prénom, parce que c'est mon copain du coup.
Oh bonjour.
je vois pas trop déjà en termes d'esthétique. L'art déco,
c'est vrai que dans un jeu comme ça j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, et il est bourré d'art déco, chaque élément.
Disons qu'il a commencé, le monde de Bioshock a commencé à évoluer, enfin ils sont partis à Rapture au moment où c'était cet art là et du coup c'est un peu comme Fallout, hein, tu vois, Fallout ça se passe loin dans le futur, mais comme c'est une espèce de ligne parallèle héritée des années 50, tu retrouves cette esthétique années 50 finalement.
C'est ça.
Donc là c'est un peu la même chose qui parle de l'art déco. Et du coup je trouve pas trop, même en termes de construction, j'ai du mal à trouver des jeux assez identiques. C'est compliqué. Je pense que ce serait beaucoup trop marqué de façon en tant qu'imitation. Je sais pas, brûle pour point, j'ai un jeu que j'ai pas fait, mais je pense à Happy Few qui se rapproche peut-être au niveau du traitement, de l'ambiance, mais je l'ai pas fait du tout, tu vois, c'est du peu que j'ai vu.
Oui, c'est vrai.
Du peu que j'ai vu, il y a des choses qui m'ont fait penser un petit peu, tu vois, bien sûr.
Sur Game Pass d'ailleurs, oui, Happy Few. Je veux pas dire de bêtises, mais j'en ai l'impression.
Du coup, je crois qu'il y a des thématiques qui sont assez similaires, mais j'en sais pas plus. Peut-être que voilà, il y a peut-être des joueurs qui pourront nous éclairer d'ici là.
Très bien. Envoyez-nous vos réactions via Twitter ou par email. Vous connaissez les adresses, lacartouche@blueprint.pm ou sur Twitter @lacartouchebp. Ben voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. L'épisode est terminé, mais l'after show vous attend après le générique de fin. Donc restez à l'écoute maintenant, puisqu'on va notamment parler de l'interface de la PlayStation 5. Vous pouvez nous écrire avec vos questions, vos réactions et vos idées de jeux nouveaux, rétro, top, que vous voudriez nous voir traiter. Ça se passe par email, donc je l'ai dit, hein, lacartouche@blueprint.pm et @lacartouchebp, ça c'est sur Twitter. Toujours sur Twitter, vous pouvez nous suivre personnellement. Toi, Lou, c'est @alexleserveur et
tout
moi,
à fait.
C'est @inkshd. Je vous dis à très vite, à bientôt.
Salut.
Ciao. Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sand.
Ah, cette musique.
Ben oui, ben ça collait bien, écoute. Un petit peu d'Andrew Ryan pour commencer, puis un petit peu de Somewhere à la fin. Enfin, non, c'est The Sea, j'imagine, je sais plus. Vu que c'est la mer en français.
Qu'on voit
est-ce que t'as quelque chose pour l'after show, mon cher Lou, à part imiter... c'était qui ? C'était Charles Trenet qui chantait ça, hein ?
Oui, je crois, hein, le long de ces golfes clairs, blablabla. Écoute, non, j'ai pas trop joué... Enfin, si, j'ai joué à un jeu dont on parlera du coup dans le prochain épisode, donc je ne peux pas en parler maintenant.
Mystère
mais, non, écoute, c'est... Waouh, c'est le...
J'ai beaucoup joué à Doom récemment. Je l'ai eu pour genre 2 ou 3 balles sur Switch quand ils ont fait les soldes. Le premier Doom, le tout premier Doom que j'ai jamais fait auparavant et qui m'a souvent repoussé. Et honnêtement, je kiffe. J'ai fait un premier chapitre en entier. Mm-hmm. J'ai quasiment terminé un second chapitre. Je le fais en écoutant des podcasts et c'est le jeu parfait pour ça.
j'ai très peu de souvenirs du coup de ce jeu. C'est marrant. Je l'ai fait, mais tout le monde l'a fait. Mm. Mais voilà, ça me pour Duke Nukem, tu vois, pour le coup, par contre, Duke Nukem 3D, il m'avait vraiment énormément marqué. Je crois que je connais encore par cœur le premier niveau, mais je crois que c'est parce qu'il y avait encore ce rapport géographique toujours qui est un peu mon problème, qui s'ancre un peu plus dans la réalité, le cinéma, tout ça, c'est tellement fun. Ouais. La suite, évidemment, j'ai un peu plus oublié, mais ouais, c'est marrant. Moi, ça m'a pas marqué.
Est-ce que t'as eu l'occasion de voir l'interface utilisateur de la PS5 ?
Pas du tout.
Alors, ils ont développé un truc que je trouve assez intéressant, puisqu'en fait, c'est... Alors, d'un point de vue purement visuel, ça a été croisé... Pas mal de gens disent c'est un croisement entre celle de la PlayStation 4 et celle de la PlayStation 3, avec donc des trucs supplémentaires. L'idée, c'est que tu as une barre en haut avec des petites cases, un peu à la Switch, avec tes différents jeux, où tu peux les sélectionner. Et t'as un second onglet au-delà des jeux qui sont l'onglet média où tu retrouveras bah, l'application Netflix, l'application Spotify, ce genre de choses. Tu retrouves aussi la boutique PlayStation Store qui a été repensée et visiblement qui sera beaucoup plus rapide grâce à la technologie du SSD. Honnêtement, je pense pas que c'est grâce au SSD comme ils le disent eux, c'est simplement qu'ils ont dû réécrire une application qui va un petit peu plus vite que l'original. J'aime bien ce côté dépouillé et un moyen de vraiment bien mettre en avant un énorme artwork lié à un jeu, même si, enfin, encore une fois, ça reste à voir de comprendre un petit peu comment ça fonctionnera avec beaucoup de jeux. Comment est-ce qu'on peut gérer ces dossiers? Est-ce que la barre devient infinie avec énormément d'items à l'intérieur, ou est-ce qu'au bout d'un moment ça fait un truc type 3 petits points, puis ensuite tu peux ouvrir une présentation plus grande de tes listes de jeux? Je sais pas exactement comment est-ce qu'ils comptent le faire. Ça, on nous l'a pas encore montré de cette manière-là avec beaucoup de jeux à l'intérieur, donc ça reste un petit mystère. Mais j'aime bien visuellement ce qu'ils ont fait. Ce qui est intéressant surtout, c'est les fonctionnalités supplémentaires. C'est-à-dire, à chaque fois que tu utilises le menu PlayStation dans un jeu, tu as un certain nombre d'actions contextuelles qui apparaissent en bas avec des petites cartes, un peu comme un deck. Et dans ces petites cartes, bah, ils prennent l'exemple du jeu Sackboy qui va sortir en même temps que la console. L'idée, c'est que chaque action que tu peux réaliser dans le jeu, chaque environnement que tu peux explorer, si tu peux le sélectionner à partir d'un menu, bah, il peut également être appliqué là-dedans. Donc tu peux passer d'un niveau à un autre directement avec le menu PlayStation. Je sais pas si tu vois.
Ouais, je suis en train de regarder en même temps. C'est ouais, je.
Et l'idée, c'est que chacune de ces petites cartes peut également te dire, bah voilà, le niveau en question, t'as encore 10 minutes ou 15 minutes de progression avant que tu le termines. Et c'est une estimation. Et je trouve ça intéressant à voir si tous les développeurs vont l'appliquer, comment ils vont l'appliquer, etc. Mais je trouve que donner cette possibilité-là et augmenter un petit peu l'accès, créer une sorte de méta-menu, comme c'est le cas là avec Sackboy, je trouve l'idée intéressante. Mais encore une fois, ça va beaucoup dépendre de l'application et notamment pour éviter les spoilers. Une autre fonctionnalité que je trouve intéressante, c'est celle de pouvoir partager ton image, un peu comme tu peux partager bah, ton image dans Discord et montrer ton écran à quelqu'un d'autre. Mais là, l'idée, c'est que tu peux, pendant que tu joues, regarder quelqu'un d'autre qui stream un de ses jeux. C'est-à-dire, si tu es en train de discuter avec ton meilleur pote qui joue, par exemple, à Spider-Man pendant que tu joues à Sackboy, bah, tu peux discuter avec lui, puis en même temps avoir dans un coin de ton écran sa partie de Spider-Man. Et ça, en vrai, surtout en période de pandémie, je trouve ça vraiment cool, en fait, de pouvoir partager ton jeu et de pouvoir montrer à une autre personne ce que tu es en train de faire, ou à tout ton groupe d'amis ce que
tu
es en train de faire.
Après, tu vois, tout ça, franchement, quand je pense à la Switch... moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est que voilà, c'est du jeu, c'est tout. Et là, je me dis finalement, on te fout des fonctionnalités encore une fois, machin et tout.
C'est vrai. Mais c'est des fonctionnalités qui sont centrées sur le jeu. C'est pas des fonctionnalités médias.
Ouais,
c'est pas.
moi, c'est ce qui m'avait saoulé déjà dans l'interface de la, de la Xbox One, c'est qu'il y en avait partout, et c'était crade à la fin, enfin, tu comprends rien du tout. Et moi, ça m'agace, quoi. Moi, je m'en fous. Alors, peut-être que je suis pas le public, hein, qu'effectivement, alors, désolé, j'ai une console, c'est juste pour jouer. Ouais. Et peut-être qu'il y a des gens qui attendent plein de trucs comme ça, multimédia, ou plein d'options plus, bizarroïdes, machin, dans le jeu qu'ils voient dans le chapitre. Mais, perso, je vois vraiment pas l'intérêt, mais peut-être parce que je suis pas du tout la cible.
Je suis ouvert à ce que ce soit pratique, à ce que ça marche bien, sans en être complètement convaincu à ce stade. J'ai vraiment hâte d'avoir la console le 19 novembre et de juger par moi-même, tout simplement. Mais en tout cas, je trouve l'idée intéressante. Ce qui m'inquiète un petit peu, ceci dit, c'est que cette vue avec les cartes et les actions en fonction des différents jeux est le truc qui s'affiche par défaut quand tu appuies sur le bouton PlayStation. Et je me demande si cet affichage par défaut est quelque chose qui est personnalisable ou si tu es vraiment forcé d'avoir cette présentation-là plutôt que ta liste de jeux ou d'applications médias. Ça pourrait devenir gênant à force suivant justement si c'est utile ou pas, si c'est désirable ou pas sur le long terme. Donc, affaire à suivre, mais... Je trouve intéressant qu'ils essayent quelque chose là où, avec le nouveau dashboard, Microsoft avec la Series X présente un dashboard qui va être disponible, qui est disponible sur Xbox One, où il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a des changements intéressants, je trouve notamment ce qu'ils ont fait avec la boutique PlayStation sur Xbox One là, ces dernières semaines, est extrêmement bienvenu, plus ergonomique, plus pratique, gestion de la liste de souhaits, etc. Enfin, vraiment, ils ont beaucoup poussé les choses et c'est mieux. Mmh. Et c'est l'avantage de ne pas repartir de zéro, c'est que tu peux raffiner ce que tu avais à la base. Mais il y a quand même cette idée-là et c'est dans la philosophie même de la console, je trouve, que on va simplement donner plus de pouvoir, plus de puissance et raffiner un petit peu ce qui existe déjà plutôt que de repartir de zéro et de faire de nouveaux choix, de se permettre de nouvelles choses, entre guillemets. Donc voilà, c'est la perspective que je trouve intéressante. Bah, justement, je parlais de Microsoft. On a la liste des jeux qui seront augmenter les jeux Xbox One notamment qui seront améliorés au lancement de la Series S et de la Series X dans moins d'un mois. Et dans cette liste-là, on a des jeux intéressants. On a notamment Fortnite sans trop de surprises. On a Borderlands 3, Assassin's Creed Valhalla qui risque d'avoir l'air pas mal justement sur ces nouvelles consoles à la sortie. Moi, enfin vraiment, ce qui me fait envie, c'est Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 qui est déjà magnifique sur une Xbox One X. Le faire tourner sur une Series X avec toutes les améliorations, franchement ça risque d'être baboum, ça risque d'être vraiment vraiment beau et enfin je suis extrêmement optimiste. J'espère avoir l'occasion d'essayer ça parce que ça me donne vraiment envie. Et puis un truc qui m'a surpris, c'est The Tourist, c'est ce jeu qui est sorti d'abord sur Switch mais ensuite sur les autres consoles, qui est un petit jeu d'exploration en voxel. Donc du 8 bits mais en 3D, qui déjà utilise très intelligemment les ressources de la Switch et vraiment c'est un jeu magnifique. C'est par Shinen, les mêmes développeurs que Fast RMX, qui est magnifique, qui est le F-Zero like de l'eShop Switch. Et je suis très curieux encore une fois de voir ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il devrait y avoir du ray tracing avec, parce que c'est globalement la nouvelle frontière à passer avec un jeu comme The Tourist d'un point de vue d'amélioration visuelle, puisqu'il tourne déjà en 60 images par seconde de manière assez assez élégante et sans aucun défaut. Donc voilà. Est-ce que toi d'ailleurs, entre parenthèses, toi tu vas pas avoir de nouvelle console du coup à la
non
à la fin d'année
à pas de sous, à pas de console,
tu n'es pas dans ce circuit là. Non, je comprends bien la problématique.
J'ai pas les moyens et de toute façon, enfin déjà avant ça, j'ai pas l'intérêt, j'ai pas l'engouement. Si j'ai des jeux qui me plaisent et qui sont dispo sur PC, je les prendrai sur PC. Si les jeux sont pas dispo, bon, tant pis. J'ai déjà tellement de jeux à faire que...
Et t'as la chance d'avoir un très bon PC, c'est vrai aussi.
Ouais, ouais, ça c'est une grande chance. Que j'ai pas payé en plus, donc c'est encore encore plus de bol, j'en reviens toujours pas d'ailleurs. mais voilà, je touche du bois tant qu'il tourne, faut vraiment pas qu'il pète parce que là vraiment je serais désespéré. Mais voilà, ça me tente toujours pas. C'est sûr que là je l'aurai pas. C'est sûr que je dépenserai pas d'argent dedans. Et j'ai encore, tu vois, je te le dis, j'ai envie de refaire Super Mario Odyssey. J'ai envie de, il y a Hyrule Warriors qui sort. Enfin, il y a tellement de jeux que voilà. J'ai pas de raison de craquer pour une de ces consoles.
Ces dernières semaines, j'ai récemment rebattu Odyssey après avoir terminé 64 Sunshine et Galaxy dans la collection. Et quel plaisir! Quel plaisir le niveau de fin, quel plaisir. Enfin,
non, tu vois, j'ai joué que 3 heures à Galaxy, donc c'est dire à quel point j'ai encore des jeux à poncer. Mais tu vois, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une console Next Gen quand j'ai même pas encore pu faire FF7 Remake, tu vois?
Je comprends.
Donc, je vais attendre qu'il sorte sur PC, mon petit FF7 Remake, et je pourrai le faire avec joie, bonheur et félicité. Mais bon, effectivement, la Next Gen se fera sans moi. Pour l'instant.
Mais elle se fera avec moi et elle se fera dans ma cartouche. J'aurai la chance, si tout va bien, de vous parler des deux consoles avant la fin de l'année et d'en parler en profondeur. Donc il y a de grandes choses à faire dans cette émission dans les prochaines semaines. On vous tient évidemment au courant. Dernier truc que je voulais voir, et toujours par rapport à la Next Gen, c'est rigolo, c'est les ventilos de la PlayStation 5 et leur contrôle. Pourquoi est-ce que je dis ça ? On a déjà vu dans les premiers retours journalistes de ces deux consoles que ces deux consoles, la Series X de Microsoft et la PS5 de Sony, visiblement, ne fait pas trop de bruit avec ces ventilos et que la gestion de la chaleur a l'air plutôt pas mal. On l'éteint. On a appris très récemment, on a appris cette semaine, au moment où on enregistre ce podcast, que Sony va mettre à jour, on va dire, le profil des ventilateurs, c'est-à-dire la façon dont les ventilateurs sont utilisés dans la console en fonction des jeux, sur la base de données qui auront été récoltées sur les consoles des gens, en mode tiens, elle surchauffe à tel et tel moment, sur tel et tel jeu, etc., pour utiliser plus ou moins les ventilateurs sur tel et tel jeu, dans tel et tel moment. J'ai trouvé ça intéressant et ça me donne de l'espoir, encore une fois, sur cette génération-là, pour avoir un peu plus de granularité, pour faire en sorte qu'on n'ait pas nécessairement un réacteur géant à chaque fois qu'on lance un jeu un peu demandeur. Ce qui, moi qui ai une PS4, est une réalité. Hein. J'avais fait tourner, parce que j'avais pris le PS Now pendant genre une semaine ou un mois, je ne sais plus, j'avais fait tourner sur ma PS4 de base Wolfenstein 2. J'avais l'impression de bosser chez Airbus. C'était monstrueux. Voilà. Un peu d'espoir, un peu d'optimisme là-dessus.